Bonjour et bienvenue sur Radio Géo. Dans notre nouvelle émission, les secondes 2 parlent au français. Nous abordons des sujets de débat essentiels qui divisent particulièrement les Français. Notre sujet du jour concerne la consommation du cannabis. Sur notre plateau, nous accueillons Élise, opposante à la dépénalisation du cannabis, et Jack, favorable à la dépénalisation du cannabis, pour nous éclairer sur le sujet. Alors commençons par vous, Élise. D'après vous, y a-t-il des risques au volant après la consommation de cannabis ?
Oui, en effet, il y a des risques au volant puisqu'il y a une modification des perceptions des risques. Ça réduit la capacité à traiter les informations nécessaires et à la maîtrise de son véhicule. Cela peut donc entraîner des comportements inadaptés et donc dangereux.
Certes, votre position est acceptable, mais vous faites erreur. En effet, le cannabis est 30 fois moins dangereux que l'alcool au volant, puisqu'il y a des milliers de morts à cause de l'alcool pour des centaines dues au cannabis.
On voit bien que ce sujet divise de nombreux Français. Autre aspect important du sujet, l'agressivité due au cannabis.
C'est vrai, surtout que ça facilite un passage à l'acte violent chez les personnes qui ont déjà cette tendance.
Alors là, je vous arrête. On pourrait croire que le cannabis augmente l'agressivité des personnes, mais non, elle la diminue, puisqu'ils sont dans un état de détente.
Si on comprend bien, devrait-on modifier la loi ?
Je pense que nous ne devons pas modifier la loi de 1970, puisque le cannabis est un produit illicite. Un adolescent sur 5 en consomme plusieurs fois dans l'année, et d'autres plusieurs fois par semaine, 15% environ. Cette consommation régulière de cannabis peut développer d'autres addictions comme la cocaïne et l'héroïne. Le cannabis peut engendrer des problèmes de santé.
Pour ma part, si on légalise l'alcool, malgré les limites fixées non tenues pour le taux d'alcool au volant, pourquoi ne pas faire la même chose pour le cannabis ? Dans ces cas-là, si on interdit le cannabis, on devrait interdire l'alcool qui fait aussi de nombreux morts. Si la loi doit être modifiée, il ne faut pas modifier seulement l'alcool. On doit arrêter de sanctionner fortement les fumeurs et de s'attaquer de manière plus exigeante aux trafiquants. Certaines lois ne sont pas forcément cohérentes.
Voyons enfin un dernier aspect de ce sujet si complexe. Il s'agit de la question suivante. Est-ce que le cannabis est un problème pour la capacité à retenir ou réaliser certaines tâches ?
Les effets du cannabis limitent la capacité et l'intérêt à réaliser des tâches qui demandent une certaine concentration, aussi bien au niveau scolaire que professionnel. Effectivement, car après avoir passé la phase de détente, on laisse place à une phase de somnolence prononcée.
Oui, le cannabis diminue les capacités intellectuelles et de réflexion. Certes, les efforts n'empêchent pas la capacité physique pour faire du sport, mais influent sur la motivation.
Voilà, chers auditeurs, ainsi s'achève cette émission. Merci à nos invités pour leurs interventions. Vous pouvez réécouter cette émission sur www.lycée-Audouin-Dubreuil, rubrique Radio Géo.
Bonjour, bienvenue sur Radio Réveil dans notre émission débat. Nous aborderons des sujets fragiles au sein de la communauté française. Aujourd'hui, une émission spéciale peine de mort. En quoi ce fait serait dérangeant pour les Français ? Comment peut-on exécuter sans celui-ci qui... avec une mort non douloureuse ? Quels sont les condamnés qui seraient condamnés à la peine capitale ? Aujourd'hui, nous recevons des invités, deux spécialistes du sujet. Azier Ethan, président de l'Association nationale de l'exécution rapide et sans douleur, qui nous fait l'honneur d'être présent.
Bonjour et merci de me recevoir.
Et nous recevons un autre invité, Jean-Yves Anest, porte-parole français d'Amnesty International.
Bonjour et merci.
Monsieur Azier, d'après vous, la peine capitale devrait être rétablie, tout d'abord pour des raisons de dissuasion.
Oui, tout à fait. C'est notamment une très bonne manière de dissuader les criminels. Et c'est aussi une excellente alternative contre les récidives, qui est, faut le dire, une part importante dans les crimes au sein de la population française et aussi européenne. De plus, on peut le constater par rapport à un grand nombre de criminels qui sont connus des services judiciaires. On peut même rajouter que les condamnations à perpétuité sont assez chères. C'est un grand investissement pour l'État. Et donc, du coup, une peine capitale rétablie pourrait réduire les dettes de l'État et aider à rétablir, peut-être ça ferait une participation à la réduction de la crise.
Je vous arrête. Vous avez raison sur les coûts de la perpétuité. Mais la peine de mort viole les droits humains fondamentaux, car elle consiste à une forme de cruelle, inhumaine. C'est pourquoi Amnesty International, dont je suis le représentant, s'engage dans le monde entier et sans exception pour son abolition. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen reconnaît à tous que nul ne sera soumis à la torture, ni à la peine, ni à des peines autrement auxquelles, au traitement auquel les humains pourraient être dégradants pour eux. Et pour la dissuasion, aucune étude scientifique n'ont prouvé l'effet de la peine de mort sur les crimes.
Comme nous pouvons le voir, les sujets se divisent. Maintenant, nous allons aborder un autre aspect important du sujet, la comparaison entre la perpétuité et la peine capitale.
Certains nous diront, retirer la vie d'un homme, c'est immoral. Mais cependant, retirer sa liberté par la perpétuité l'est tout autant, puisqu'on prive le sujet de vivre normalement, et certains préféreraient donc mourir, et donc cela cause des suicides dans les prisons, ou même des bagarres ou des trucs comme ça. Après, on peut nous dire, lors d'une erreur judiciaire, on tue un innocent. On lui retire sa vie, il n'a plus de... C'est un aller sans retour. L'enfermer, c'est la même chose. On l'enferme jusqu'à la fin de ses jours. Encore une fois, on le prive de sa liberté. On le prive de vivre normalement. Cela, certains peuvent devenir fous. Et donc, encore une fois, ça mène à des suicides dans les prisons. Donc, en conclusion, on peut en dire que enfermer un innocent pourrait revenir à le tuer.
C'est exact. Il y a des exécutions d'innocents, de jugements erronés et d'erreurs judiciaires. Mais il s'avère n'être pas déterminé avec précision. De faux aveux, des faux témoignages et des expertises insuffisantes peuvent influencer l'issue d'un procès judiciaire et conduire à un assassinat perpétré par la justice. Une erreur judiciaire reste une erreur judiciaire, non fréquente.
Si on comprend bien, les différences entre la mort et la liberté privée sont très faibles, car le premier droit qu'il a, c'est la liberté. Et il lui est enlevé, donc la mort est aussi légitime pour certaines personnes. Voyons enfin un dernier aspect de ce sujet si complexe. Il s'agit de la question de l'effet sur le taux de criminalité.
Sur le taux de criminalité, il n'y a aucune étude qui apporte les preuves nécessaires que la peine de mort ait réellement les effets de baisser ce taux. Ceci montre l'inutilité de la peine de mort, car les criminels n'ont pas vraiment peur de la mort, mais de l'emprisonnement à vie. Oui, avec la peine de mort, les États satisfaisent une certaine soif de vengeance, populiste comme les États d'Iran et en Chine. La peine de mort permet au pouvoir de se débarrasser des personnes impopulaires.
Là, sur ce sujet, je peux vous dire que ça n'augmente pas non plus le taux de criminalité, puisque c'est bien prouvé, c'est pas parce qu'on va mettre une nouvelle peine que le taux va éclater et que ça va reprendre de plus belle. De plus, ça n'a pas un impact nul sur la société, et donc cela peut faire réagir les gens. De plus, lorsque vous relâchez un prisonnier, vous pouvez favoriser les récidives, et donc pour revenir sur le taux de criminalité, ça l'augmente bien sûr. Et pour la vengeance, on pourrait dire que ce n'est pas les États qui se vengent, mais on venge un peu. De toute façon, la justice, c'est une part de vengeance, puisque c'est la vengeance de la victime qui a été tuée ou violée ou des trucs comme ça. Et donc, du coup, bien sûr qu'on venge, cette victime.
Bon, nous allons donc terminer cette émission là-dessus. Merci à nos éditeurs qui ont suivi cette émission, ainsi qu'à nos invités et leur intervention. Vous pouvez réécouter cette émission sur www.lycée-Audouin-Dubreuil, rubrique Radio Géo. Demain, nous aborderons la question de l'alcool au volant, un sujet très présent dans notre société qui tue des milliers de personnes chaque année.
Bonjour et bienvenue sur Radio LA, de la radio d'information lycéenne. Dans notre nouvelle émission sur la santé des lycéens, nous abordons des sujets débats essentiels qui divisent particulièrement les Français, parlant des jeunes et de leur santé. Notre sujet du jour concerne l'abus d'alcool chez les jeunes. En quoi l'abus d'alcool est-il dangereux pour la santé? Comment limiter cet abus causé par les jeunes? Et qui en sont les victimes? Sur notre plateau, nous accueillons Camille Lesclos, dirigeante de l'institution pour la protection des mineurs.
Bonjour, merci de me recevoir.
Et Iris Lahache, directrice de la société Smirnoff.
Bonjour.
Pour nous éclairer sur le sujet. Alors commençons par vous, Camille. D'après vous, l'abus d'alcool est-il dangereux pour la santé?
Oui, en effet, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé des jeunes parce que l'alcool conduit à des effets à la fois biologiques et comportementaux qui mènent à la psychoactivité, addictivité et toxicité. Et cet abus nuit à d'autres personnes, notamment les accidents de la route.
Certes, votre proposition est acceptable, mais vous faites erreur. En effet, ce site est dangereux, mais cet abus d'alcool chez les jeunes s'explique du fait qu'il a un côté festif et libérateur. Les fêtes et soirées des jeunes ne se verront plus de la même façon si on interdirait l'alcool. Et en plus de cela, la vente d'alcool rapporte de l'argent à l'État, ce qui est d'environ 550 millions d'euros. Donc il est préférable de limiter cet abus au lieu de l'interdire.
On voit bien que ce sujet divise les entreprises et le gouvernement. Autre aspect important du sujet, comment limiter cet abus causé par les jeunes?
C'est vrai que l'État a besoin de cet argent, mais la santé des mineurs est plus importante que l'argent, donc je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce point. Mais si l'on interdit la vente d'alcool chez les mineurs, ces jeunes passeront par des majeurs pour acheter puis consommer de l'alcool. Donc limiter l'alcool chez les jeunes est une excellente idée, mais il faut trouver une autre solution, comme par exemple l'interdiction de vente d'alcool en soirée, ainsi que l'interdiction de vente dans les stations-service. Selon les chercheurs, les adolescents et les jeunes adultes consomment moins lorsque la vente est limitée. Ceci est notamment dû au fait qu'ils ont tendance à faire des achats d'alcool spontanés et non planifiés, ou alors informer de plus en plus les jeunes dans les collèges et lycées sur les effets et les risques de l'alcool, ou encore interdire la publicité d'alcool.
Oui, en effet, tout cela pourrait être une solution, parce que la consommation d'alcool diminuerait chez les mineurs. Mais le fait d'interdire la publicité d'alcool n'est pas une bonne idée, parce que l'État doit rapporter assez d'argent. Je ne pense pas qu'interdire la publicité d'alcool diminuerait la consommation d'alcool. Par contre, l'interdiction de vente d'alcool dans les magasins la nuit ou dans les stations-service diminuerait peut-être les accidents de la route, et le fait d'informer les jeunes sur les effets d'alcool les inciterait peut-être à réfléchir.
Voyons enfin un dernier aspect de ce sujet si complexe. Il s'agit de la question de qui en sont les victimes.
Il n'y a pas que les jeunes buvant de l'alcool qui en sont les victimes, mais aussi les piétons comme les autres conducteurs. Il faut donc augmenter le nombre de gendarmes de nuit sur les routes.
Je suis d'accord avec vous sur ce point, car beaucoup d'accidents sont causés par l'ivresse des conducteurs qui en entraînent d'autres qui en sont innocents. Et je vous suis sur votre proposition de l'augmentation du nombre de gendarmes.
Voilà, chers auditeurs, ainsi s'achève cette émission. Merci à nos invités pour leur intervention sur l'abus d'alcool chez les jeunes. Vous pouvez réécouter cette émission sur www.lycée Honoré du Breuil, rubrique Radio Géo. Tout de suite, la météo suivie des informations régionales. À 12h45, les informations politiques sur les élections européennes avec Jacques Delors, Eva Jolie et Françoise Ménard. C'était notre émission sur la santé des lycéens sur Radio LAD. Au revoir et à bientôt.
Bonjour, bienvenue sur Radio Info. Dans notre nouvelle émission Pour ou Contre, nous abordons des sujets de débat essentiels qui divisent particulièrement les Français. Notre sujet du jour concerne l'agriculture Monsanto et les risques de ses produits phytosanitaires. En quoi les produits phytosanitaires ont-ils un impact sur la santé? Comment peut-on réduire l'utilisation d'OGM? Et pourquoi utilise-t-on des produits phytosanitaires? Sur notre plateau, nous accueillons Paul François, agriculteur charentais qui a conduit Monsanto en justice et qui a remporté le procès. Bonjour.
Bonjour messieurs, et je vous remercie de m'avoir convié à ce débat.
Nous accueillons également Gaël Poteau. Monsieur Poteau est un cadre de l'entreprise multinationale Monsanto pour nous éclairer sur le sujet.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Alors, commençons par vous, monsieur François. D'après vous, les produits phytosanitaires devraient être interdits d'utilisation.
Effectivement, je fais partie de ceux qui considèrent que les produits phytosanitaires tels que les fongicides, les herbicides, les insecticides ou les pesticides sont des produits bien trop dangereux pour être commercialisés. Il est certes normal que ces produits soient suffisamment toxiques pour éliminer les nuisibles, mais il est inacceptable qu'ils soient si dangereux pour l'homme. De plus, certains de ces produits sont très accessibles et donc facilement utilisables par des agriculteurs ou des particuliers. Car si les pesticides sont devenus des produits quasiment indispensables pour certains agriculteurs, ils deviennent aussi pour des particuliers. Or, ces derniers sont souvent sans protection et sans information sur les risques qu'ils prennent en les utilisant. Par exemple, pour un produit comme le Roundup, une mauvaise utilisation peut engendrer des grosses douleurs intestinales, des évanouissements ou parfois la mort. C'est pourquoi une législation plus stricte à l'égard des pesticides est indispensable.
Votre position est recevable, mais l'entreprise Monsanto fait des efforts pour que l'utilisation des produits phytosanitaires soit sans conséquences dangereuses. En effet, nous demandons un usage sécurisé des produits comme le Roundup, ce qui implique une utilisation adéquate du matériel et des équipements de protection. Nous recommandons d'utiliser chaque pesticide dans le respect des précautions d'emploi. Établies spécifiquement pour chaque produit, ces recommandations sont distinctes à éviter tout risque pour la santé de l'utilisateur et des consommateurs. Monsanto s'engage à améliorer et promouvoir l'utilisation sans conséquence de ces produits auprès des exploitants agricoles et des particuliers. Nous sommes en partenariat avec un certain nombre d'exploitations agricoles engagées pour l'agriculture durable. Notre entreprise sensibilise régulièrement les agriculteurs aux installations matérielles et aux bonnes pratiques agricoles. Celles-ci permettent de protéger les parcelles sans porter atteinte à l'environnement. Toutes ces normes et toutes ces restrictions peuvent être trouvées sur notre site internet monsanto.com.
On voit bien que vous êtes partagé par ce sujet. Autre aspect important du sujet, peut-on réduire l'utilisation d'OGM ?
En admettant que l'entreprise Monsanto mène une campagne pour que l'utilisation des produits phytosanitaires se fasse avec le plus de précautions possible, il n'est tout de même pas négligeable que ces produits soient mortels. Dans les années 80, il y a eu une vague de suicides au Roundup. C'est pourquoi il serait peut-être préférable que Monsanto fasse des recherches sur des pesticides plus sélectifs ou d'autres moyens de lutter contre les nuisibles. Cela aurait moins d'impact sur l'environnement et sur l'homme. Mais votre multinationale a décidé de concentrer ses recherches sur les organismes génétiquement modifiés, plus connus sous le nom d'OGM. Cependant, nous ne connaissons toujours pas les effets éventuels que pourraient avoir ces OGM sur l'homme, et nous ne savons toujours pas s'ils sont comestibles.
Nous ne sommes pas responsables de la mauvaise utilisation de nos produits phytosanitaires. Il faut aussi savoir que nos produits de la gamme Roundup sont principalement composés de glyphosate, qui est un désherbant de l'entreprise Monsanto, dont nous avons détenu le brevet jusqu'en 2000. Des méta-analyses sur cette molécule ont montré que le glyphosate a un profil toxicologique plutôt favorable comparé à d'autres herbicides. Le glyphosate n'a pas d'impact sur la reproduction et la descendance de ceux qui l'utilisent. Vous nous présentez ainsi les produits phytosanitaires comme des produits dangereux et des espèces chimiques qu'il faut interdire, alors qu'en réalité, ces produits ont permis de sauver de nombreux pays de la famine, comme par exemple lors de la Révolution verte en Inde, pendant sa croissance démographique.
On voit bien que vous n'avez pas la même vision des produits phytosanitaires. Voyons enfin un dernier aspect de ce sujet si complexe. Il s'agit de la question de la Révolution verte.
Même si vous n'avez toujours pas répondu à la question sur les OGM, monsieur, je vais quand même continuer sur le débat du glyphosate. Il est vrai qu'en Inde, les pesticides ont permis d'augmenter les rendements sur des cultures et sauver l'Inde de la famine. Mais cette nouvelle agriculture a aussi eu des effets pervers, puisque les agriculteurs indiens se sont endettés pour pouvoir acheter des pesticides et le matériel nécessaire à leur utilisation. Mais maintenant que leurs cultures ont été rendues infertiles à cause de la surutilisation des pesticides, ces agriculteurs sont désormais au bord du gouffre, endettés et sans travail. C'est une preuve que les produits phytosanitaires causent des dégâts environnementaux et humains. L'Inde n'est pas le seul désastre, puisqu'en Colombie, les autorités détruisent les plantations des narcotrafiquants en les aspergeant leurs champs par avion de glyphosate, cette molécule dont Monsanto a détenu le brevet jusqu'en 2000. Or, cela a aussi d'énormes dégâts sur les populations innocentes, puisque les populations amérindiennes sont victimes en permanence de ces aspersions et ne peuvent plus se nourrir correctement, cela détruit la biodiversité. C'est encore une nouvelle preuve de la dangerosité des pesticides.
Alors là, je vous arrête. Le glyphosate seul est inoffensif. Ces molécules ont été spécialement conçues pour ne pas affecter les animaux, les hommes et les cultures. Des études de Monsanto ont prouvé que ce produit était biodégradable, quel que soit le milieu de dégradation. Le glyphosate est l'herbicide le plus efficace au monde. Il stoppe la croissance des mauvaises herbes sans affecter les cultures. Pour stopper les cultures de drogue en Colombie, le gouvernement a utilisé, certes, du glyphosate, mais ce produit a été mélangé avec d'autres produits toxiques non utilisés par Monsanto. Nous ne sommes donc pas responsables des actions du gouvernement colombien. Leurs actions contre les cultures de drogue est recevable, mais la pollution de leurs forêts est intolérable.
Voilà, chers auditeurs, ainsi s'achève cette émission. Merci à nos invités pour leur intervention. Vous pouvez réécouter cette émission sur www.lycéeaudouin-dubreuil, rubrique Radio Géo. Demain, il s'agira de la question de la peine de mort. Merci et à bientôt.
Bonjour, bienvenue sur Radio Géo. Dans notre nouvelle émission, nous abordons des sujets de débat essentiels qui divisent particulièrement les Français. Notre sujet du jour concerne l'utilisation de la cigarette électronique chez les jeunes de 15 à 20 ans dans les lieux publics. En quoi la cigarette électronique est-elle différente de la cigarette normale ? Quels sont les dangers de la cigarette électronique ? Quelles sont les autorisations concernant les lieux publics ? Sur notre plateau, nous accueillons Madame Florane Trouvé, vendeuse spécialisée dans la vente de cigarettes électroniques, ainsi que Madame Amélie Hélin, médecin tabacologue. Alors, commençons par vous, Florane. D'après vous, la cigarette électronique est un moyen non dangereux d'arrêter de fumer ?
Oui, en effet. Même si aucune étude scientifique n'a encore été réalisée concernant les effets thérapeutiques de la cigarette électronique sur le tabac, ce dispositif a permis à un certain nombre de personnes d'arrêter de fumer. En tant que vendeuse, j'ai pu observer depuis quelques années une nette augmentation des ventes. Nous pouvons donc espérer que ce phénomène soit dû à la motivation des Français d'arrêter de fumer.
Certes, votre point de vue est acceptable, mais vous faites erreur sur un point. Chez quelques lycéens, l'utilisation de la cigarette électronique est pour arrêter de fumer. Mais chez la majorité des lycéens, l'achat de cigarettes électroniques n'est pas dans le but d'arrêter. C'est un nouveau produit du tabac, grâce auquel on peut varier les goûts, tels que des goûts fruités, goût tabac ou encore goût boisson. En effet, en voyant les autres fumer, certains se laissent tenter, car on trouve de plus en plus de cigarettes électroniques, notamment chez les jeunes. Nous pouvons alors parler d'effet de mode.
On voit bien que ce sujet divise les vendeurs et les médecins. Autre aspect important du sujet, les dangers. Commençons d'abord par décrire la façon de fumer et les composants du liquide de la cigarette électronique.
Lorsque le fumeur tire en aspirant par l'embout, le capteur détecte les aspirations du fumeur. L'atomiseur se met alors en route et une résistance va chauffer le liquide contenu dans une cartouche et va le vaporiser lors de l'aspiration du fumeur. On appelle ce geste « vapoter », le tout fonctionnant avec une pile ou une batterie rechargeable. Pour les dangers, il est vrai que la cigarette électronique peut être dangereuse car dans le liquide se trouve très souvent de la nicotine responsable de la dépendance au tabac. Mais chacun est libre de choisir le taux de nicotine qui peut aller de 6 à 36 mg par millilitre. Et en même temps, le parfum contenu dans le liquide. C'est le principe de la cigarette électronique. Comme les utilisateurs peuvent diminuer leur consommation, voire arrêter complètement, il y a donc de réels bénéfices pour la santé du consommateur.
Alors là, je vous arrête. La cigarette représente un grand risque pour la santé. Tout d'abord, elle représente un nouveau contact au tabac, accessible aux jeunes pouvant rendre dépendants. Ensuite, dans les liquides se trouve très souvent, en plus de la nicotine, du propylène glycol, un composé chimique du groupe des alcools. Il est utilisé comme solvant dans les cigarettes électroniques. Aujourd'hui, on ne connaît pas vraiment le taux de toxicité de ce produit à cause du manque d'études à ce sujet. Mais aucun problème n'a encore été détecté avec l'utilisation de ce produit dans les cigarettes électroniques. Puis, dans certains liquides de cigarettes électroniques, se trouvent des produits différents, pouvant être de mauvaise qualité et toxiques. Enfin, il est très probable que les fumeurs de cigarettes électroniques choisissent par la suite de fumer la cigarette normale pour des sensations plus fortes. Même si nous pouvons observer que beaucoup d'utilisateurs ont arrêté de fumer, certains ont seulement remplacé une addiction par une autre, certes moins dangereuse, mais toujours toxique. C'est pour cela que la majorité des médecins ne recommandent pas encore la cigarette électronique pour arrêter de fumer. Une question importante se pose alors, la cigarette électronique est-elle un nouveau produit de sevrage ou simplement un nouveau produit de l'industrie du tabac ?
Si l'on comprend bien, il existe aujourd'hui encore beaucoup d'interrogations concernant les dangers des cigarettes électroniques. Passons maintenant à un autre aspect, l'aspect économique. Je vous laisse la parole, Florane.
Les cigarettes électroniques représentent un investissement, mais sont relativement moins chères que les cigarettes normales à long terme. En effet, le coût mensuel de la cigarette électronique serait en moyenne 4 fois moins cher que celui de la cigarette normale. Ce nouveau marché représente un gain d'argent pour les utilisateurs qui a été de 50 millions d'euros en 2012 et qui est ensuite passé à 100 millions d'euros en moyenne en 2013. De plus, le prix de la cigarette électronique ne subit pas la hausse du tabac, contrairement à la cigarette normale. Ceci est donc une vraie bonne nouvelle pour les vapoteurs.
Au contraire, je trouve que ce gain d'argent n'est pas une bonne nouvelle. En effet, c'est un moyen important pour donner l'accessibilité à la cigarette électronique à plus de personnes. Ces gens, notamment des jeunes, n'avaient peut-être pas été entraînés dans le marché du tabac auparavant par manque de moyens. Le nombre d'utilisateurs augmente et donc le nombre de personnes en danger.
Le bas prix de la cigarette électronique serait donc un danger pour les Français. Voyons enfin un dernier aspect de ce sujet si complexe. Il s'agit de la question de l'utilisation dans les lieux publics.
De mon point de vue de médecin, la cigarette électronique ne devrait pas être acceptée dans les lieux publics. Si nous considérons ce produit comme un produit du tabac, la cigarette électronique devrait être traitée comme une cigarette normale et serait donc interdite d'abord aux mineurs, puis dans les lieux publics. Il pourrait y avoir des dégradations en rechargeant le liquide des cigarettes électroniques. Cela pourrait déranger les non-fumeurs par le geste et la vapeur. Et enfin, cela pourrait inciter les non-fumeurs à fumer. C'est pour cela que dans certains lieux publics, notamment scolaires, la cigarette électronique devrait être interdite.
Oui, mais par contre, si nous considérons la cigarette électronique comme un produit médical non toxique pour l'entourage, cette cigarette devrait être autorisée dans les lieux publics.
Nous pouvons donc en conclure que beaucoup d'interrogations se posent concernant les dangers et les autorisations de la cigarette électronique dans les lieux publics. Mais aucune loi n'est encore passée concernant ce sujet. Voilà, chers auditeurs, ainsi s'achève cette émission. Merci à nos invités pour leur intervention si constructive. Vous pouvez réécouter cette émission sur www.lycée-Aunois-Dubreuil, rubrique Radio Géo. À bientôt.
Bonjour, bienvenue sur Radio Plus, dans notre nouvelle émission Débat Plus. Nous aborderons des sujets de débat essentiels qui divisent particulièrement les Français. Notre sujet du jour concerne le tabagisme chez les jeunes. Les questions que nous pouvons nous poser sont comment le tabagisme est-il devenu si courant chez les jeunes? Quelle tranche d'âge est le plus touchée par ce sujet? Et en quoi le tabagisme chez les jeunes pose un problème dans les lieux publics. Sur notre plateau, les frères Terrier, tous deux concernés étant donné qu'Alain fume et qu'Alex est psychologue spécialisé.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Alain. Bonsoir Alex. Commençons par vous Alain. D'après vous, qui sont les personnes les plus concernées?
À mon avis, comme vous l'avez dit précédemment, ce sujet concerne les jeunes. Mais lorsque l'on parle de jeunes, cela reste un terme assez vague, donc je préfère donner une tranche d'âge d'environ 13-18 ans, même si les jeunes commencent de plus en plus tôt à fumer, mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, car cela rapporte de l'argent à l'État.
Alors là, je vous arrête, car là où on parle des jeunes, pas d'adultes responsables, et je ne tolère pas que l'on puisse trouver ça normal, de vendre des produits illicites, qui contiennent des produits dangereux et toxiques tels que le montre ce document que j'ai à disposition, qui est une photo d'une cigarette en coupe, et montrant tous les produits qui se trouvent dans celle-ci, comme le méthanol qui est utilisé comme carburant pour les fusées, et de l'arsenic, et j'en passe. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour que les jeunes de 12 à 18 ans consomment ce genre de produits, ne serait-ce qu'une seule fois par jour, ce qui est rarement le cas.
On voit bien que ce sujet divise vos propos. D'un côté, vous revendiquez l'argent que cela rapporte à l'État, et de l'autre, toutes les choses néfastes que contient la cigarette. Un autre aspect important du sujet, Comment le tabac est-il arrivé chez les jeunes ?
De mon point de vue, c'est un effet social. Cela permet par exemple aux plus timides de s'intégrer dans une relation sociale durable avec d'autres fumeurs. Cela permet aussi de se détendre, d'avoir une sensation de bien-être pendant les périodes scolaires ou certains lors de problèmes sociaux. C'est d'ailleurs ce que les fumeurs donnent le plus comme argument.
Je suis désolé, cela permet peut-être de se détendre, mais dans ce cas, cela coûte cher pour l'effet voulu. Vu que le paquet de cigarettes est à 7€, si on achète un paquet par jour, cela revient à payer 50€ par semaine pour une sensation de bien-être. Cela pourrait, au bout de 2 mois, servir à acheter une console de salon dont certains rêvent tous.
Si on comprend bien, vous dites que la cigarette détend, Alain. Mais Alex affirme que les cigarettes sont trop chères pour cela. En voyant enfin le dernier aspect du sujet, en quoi le tabagisme chez les jeunes pose un problème dans les lieux publics ?
Oui, comme vous venez de le dire, ce facteur pose problème dans les lieux publics pour 2 raisons. Premièrement, cela est interdit de fumer dans les lieux publics, même si l'on sait déjà que les jeunes n'ont pas normalement le droit de fumer. Deuxièmement, à cause du tabagisme passif qui, comme on le sait peut-être, très sévère, voire mortel. De plus, certains jeunes ne respectent même pas ces lieux en jetant leurs cigarettes un peu partout, même si malheureusement, ce n'est pas le seul objet que l'on puisse retrouver au sol qui n'ont rien à faire là.
Peut-être, mais ce ne sont pas seulement des jeunes qui font tout ça. Beaucoup d'adultes sont eux aussi responsables de cette pollution volontaire. De plus, il est possible de fumer dans les lieux publics ouverts, tels que les parcs, ce que les jeunes font souvent d'ailleurs.
Voilà, chers auditeurs, ainsi s'achève notre émission. Merci à nos...
Quoi ? C'est déjà fini ?
J'ai encore quelque chose à dire.
Désolé, c'est la fin de notre émission, alors prenez vos affaires et veuillez partir, s'il vous
plaît. Ah non, je ne suis pas d'accord.
On ne peut pas s'arrêter ici.
Je ne suis désolé, mais c'est la fin. Désolé pour ce petit problème. Remercions à nos invités pour leur intervention. Vous pourrez réécouter cette émission sur www.lycée-Audouin-Dubreuil, rubrique Radio Géo. Demain, nous parlerons des aléas du direct.